Ésaïe chapitre 30. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui de la confiance en Dieu. Voici ce que le Seigneur a pu dire au peuple de Juda. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 15. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Déjà, je m'arrête là. Le Seigneur a tendu sa main à son peuple. Et là, c'est comme un reproche qu'il fait à ce peuple-là, en disant, vous n'avez pas voulu de ma grâce. Quand je lisais cette parole, je me suis arrêté un instant et je me suis dit, Seigneur, pardonne ton peuple. Et nous qui lisons ensemble ce passage, et si le Seigneur nous disait ces mêmes paroles? Si le Seigneur se tenait là devant nous en nous disant, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est pourquoi vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Mais malgré tout, voilà une parole rassurante. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Heureux. Mais avant de prononcer ces paroles bienveillantes et rassurantes, le Seigneur a pris le soin tout de même de rappeler à son peuple, son manquement. Ce peuple qui est passé à côté de ce que le Seigneur a voulu de lui. Vous savez, les difficultés de la vie sont telles que l'homme court ça et là, à la recherche de solutions, faisant confiance à ce qu'il voit, faisant confiance en l'homme plutôt qu'à celui qu'il a créé, à ce Dieu qui connaît tout et qui peut tout. À cause de cela, les choses se détériorent autour de nous. Les choses se dégradent. Et nous passons à côté de beaucoup de choses. Quand nous lisons ce texte, on se rappelle Dieu qui fait ce reproche à ce peuple de Juda. Juda qui se confiait en l'homme plutôt qu'à celui qui l'a secouru, qui l'a sauvé. Dans son amour, Dieu avertit son peuple. Il avertit tous ceux qui s'appuient en l'homme et leur montre les conséquences qui s'en suivent. Vous savez, les avertissements de Dieu sont à prendre au sérieux. Parce qu'il nous éviterait bien des soucis. Oui, quand Dieu nous avertit, c'est pour notre bien. Parce qu'il connaît ce qu'il y a au-delà de ce que nous pouvons voir. Nous avons du mal à voir au-delà du bout de notre nez, mais lui, le Dieu omniscient, il connaît par avance ce qu'il adviendra. C'est pour cela qu'il prend le soin d'avertir son peuple. Il prend le soin de nous montrer, de nous mettre en garde. La confiance, c'est un principe de vie essentiel, quoi qu'il en soit. Dans ce passage que nous avons lu, c'est Dieu qui avertit le peuple de Juda que sa source de salut, de confiance qui est l'Égypte et les autres nations sur lesquelles il s'appuie, ne lui seront de grand secours. La question que j'aimerais que l'on se pose ce matin, sur qui nous appuyons-nous? Ou sur quoi nous appuyons-nous? Vous me direz, pasteur, quelle question? Parce que je suis enfant de Dieu. Il est évident qu'en tant qu'enfant de Dieu, on s'appuie sur le Seigneur. Mais le Seigneur s'adresse à qui dans ce texte? Il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à Juda. En disant, oui, tu t'es appuyé sur l'Égypte, tu t'es appuyé sur les nations qui sont autour de toi. Mais c'est peine perdue. Nous avons à nous rappeler, frères et sœurs, que quel que soit ce que nous voyons, quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas nous laisser détourner par qui que ce soit. Mais nous devons toujours avoir nos regards fixés sur notre Seigneur. Le Seigneur dira à Juda, puisque ta source de confiance est peine perdue et vaine, par conséquent, la seule source de délivrance, c'est Dieu. À qui le peuple devait s'attendre dans le calme et la confiance. Force est de reconnaître que depuis les événements qui ont secoué notre monde et par voie de conséquence l'Église, beaucoup se sont appuyés sur pas mal de choses. La conséquence en est que quand on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas solide, nous tombons avec. Vous savez, on croit toujours que la parole de Dieu, c'est pour les autres. Et la plus grande erreur de l'homme, c'est de dire non à la grâce de Dieu. Cette faveur totalement imméritée et qui est l'expression de la bonté de Dieu à travers le pardon en Jésus-Christ. Le refus de la main de Dieu plonge l'homme dans pas mal de tourments. Et si notre société est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les hommes refusent cette main tendue. Elle est toujours tendue. Elle a été tendue il y a plus de 2000 ans. Mais le Seigneur, dans son amour, n'a pas retiré sa main. Elle est toujours tendue, la main de Dieu. Mais l'homme ne n'y prend pas garde. Vous savez, dès le commencement, Dieu a mis un fondement à la vie, un principe qui se retrouve partout, à savoir la confiance. C'est un principe de vie qui s'entretient. Ce n'est pas un acquis, la confiance. Ce n'est pas un acquis. Dans nos relations humaines, la confiance est essentielle. Si nous n'avons pas confiance, on ne peut pas travailler ensemble. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Sans la confiance de Dieu, la confiance humaine sera vaine. Pour une bonne relation, il faut la confiance. La question que l'on peut se poser en regardant autour de nous, pourquoi les relations humaines sont détruites? Nous sommes-nous déjà posé cette question? Pourquoi les relations humaines sont détruites? Il ne faut pas aller chercher très loin. C'est à cause du manque de confiance à Dieu. À cause du manque de confiance, les relations humaines sont détruites. Cela s'est passé dès le commencement avec Adam et Ève. Quand ils ont rompu leur confiance à Dieu, que s'est-il passé? Alors que Dieu avait formé ce couple solide et voulant qu'au travers d'eux, il y ait une famille solide, lorsqu'ils ont brisé leur confiance en Dieu, c'est à partir de ce moment que la difficulté a commencé à s'introduire en son sein. Et c'est à partir de ce moment qu'il va y avoir le cœur, au lieu d'être rempli de la confiance, de la tranquillité, du repos de Dieu, le cœur va être envahi de la haine. Et c'est à partir de ce moment que, voilà, dans le premier couple, il va y avoir la haine, la rébellion, le meurtre. Ce n'était pas voulu de Dieu. Ce n'était pas voulu de Dieu à la base. Parce qu'il voulait une famille unie, harmonieuse. Il voulait des relations saines. Mais malheureusement, parce que l'homme a rompu sa confiance en Dieu, il se retrouve livré à lui-même. Vous savez, l'homme peut trahir notre confiance, mais Dieu, il demeurera fidèle. Voyons ensemble un peu la conséquence de la confiance en Dieu. Il dira à son peuple, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand on a confiance en Dieu, on est dans le repos. Cette quiétude qui envahit nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Et j'aimerais que l'on se pose cette question. Nous qui sommes rentrés dans ce lieu ce matin, sommes-nous dans la quiétude ou dans l'inquiétude? Sommes-nous dans la quiétude ou dans l'inquiétude? Que le monde s'agite, que le monde s'inquiète, que le monde se soucie de ce qui se passe, c'est quelque chose de normal. Parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Mais que le peuple de Dieu s'inquiète et s'agite à tout vent, tout en se laissant envahir par ses inquiétudes, là il y a un souci. Je ne dis pas que les inquiétudes ne peuvent pas venir, parce que nous sommes humains. Mais l'inquiétude ne devrait jamais envahir le cœur de l'enfant de Dieu au point qu'il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Sommes-nous dans la quiétude ou dans l'inquiétude? Vous savez, c'est l'homme qui a décidé de retirer sa confiance à Dieu dès le commencement pour la placer à un autre, le diable. Et il a su jouer avec cela. Parce que tant que l'homme avait confiance en Dieu, le diable ne pouvait rien faire. Mais à partir du moment où il va détourner ses regards et perdre confiance, c'est là qu'il va se laisser avoir. Et ce choix n'a pas été sans conséquence. Le désastre s'est introduit dans la vie des hommes. Et nous le voyons encore aujourd'hui, les conséquences désastreuses du choix que l'homme a fait dès le commencement. Mais nous ne pouvons pas tout de même tout remettre sur le dos de Adam et Ève. Parce que Jésus est venu sur la terre Le second Adam a livré sa vie pour rompre cette inimitié qui existe entre Dieu et l'homme, afin de permettre aux hommes non seulement de faire la paix avec Dieu, mais aussi d'être dans la paix de Dieu. Mais il y a là cette reproche de Dieu, vous ne l'avez pas voulu. Qui va ramener la confiance entre Dieu et l'homme? Jésus, dans Jean au chapitre 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est cet homme Jésus, venu pour sauver les hommes et les ramener dans la communion avec Dieu. Communion qui est établie sur la base de la confiance. Il ne peut pas y avoir de communion avec Dieu sans cette confiance. Il en est de même dans nos rapports humains. Il est digne quand même de recevoir notre adoration. Il est digne de confiance, Jésus, au regard du don de sa vie, au regard de ce sacrifice parfait à la croix. Quelque chose qui échappe à l'entendement humain encore aujourd'hui. Comment comprendre qu'un homme livre sa vie? Comment comprendre que quelqu'un meurt à la place des autres? C'est incompréhensible, humainement parlant. Nous, en tant qu'hommes, nous avons du mal à le concevoir, à l'accepter. Et pourtant, c'est une réalité. Dieu qui n'a trouvé personne ni dans le ciel ni sur la terre pour apaiser sa colère, pour personne sur qui il pouvait refaire tomber sa colère, mais il a trouvé en la personne de Jésus, son Fils unique, sa miséricorde s'est manifesté. Parce qu'il n'a pas fait venir sur nous ce que nous méritions. Nous méritions la colère, la condamnation. Et quand nous lisons la parole de Dieu, on se rend compte qu'une fois cette confiance rompue, qu'une fois l'homme a trahi Dieu, que méritait-il ? Puisqu'il a tourné le dos à Dieu. Mais dans son amour, Dieu a regardé, il était sur son trône et il a vu la misère des hommes. Et encore aujourd'hui, ne croyons-nous pas que Dieu reste indifférent à la misère des hommes? On a beau mettre sur le dos de Dieu ce qui se passe, il n'est pas l'auteur de ce qui se passe. Nous sommes responsables de nos choix. Et Dieu, dans sa miséricorde, au lieu de nous condamner, il a livré Jésus, cette grâce infinie. Nous ne méritons rien. Paul dira ceci aux Romains, au chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel soulagement. Jésus mort pour les hommes, non pas à cause de leur mérite, mais parce qu'il les aime. Oh, encore aujourd'hui, si l'homme pouvait s'arrêter un instant. Vous savez, dans la vie, il faut faire parfois des pauses. Une pause doit s'imposer parfois dans notre vie pour nous permettre de faire un bilan. Un bilan. Chaque année, parfois, ou je ne sais pas combien de temps, on se prend le temps de faire un bilan de santé. C'est nécessaire. C'est nécessaire, un bilan de santé. Mais un bilan spirituel s'impose également. C'est parce que ce n'est pas parce que je suis sauvé que tout baigne dans l'huile. Il faut que nous nous posions à un moment donné pour faire le bilan de notre parcours, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais pour permettre au Seigneur de pointer du doigt ce qui ne va pas, afin de nous montrer le chemin, parce que lui seul connaît ce qui ne va pas dans notre cœur. Nous pouvons dire que tout va bien. Moi, je peux vous dire que tout va bien. Jusqu'à ce que j'aille consulter le docteur et lui, il me dira « Ouh, attention, attention, faites attention, voici ce que vous devez faire. Sinon, combien ont déjà entendu cette parole lorsqu'ils ont consulté le médecin, eux qui croyaient que tout allait bien ?» Mais tant que l'homme ne prenne pas ce temps pour se poser devant Dieu, comment va-t-il entendre Dieu lui dire « Attention !» Comment va-t-il entendre Dieu lui dire « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Pour regagner la confiance, l'apôtre Jean dira ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pour cela Esaïe termine ce discours lorsqu'il dira au verset 18 « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. » Vous savez, pour ainsi concilier le pardon et sa justice, Dieu a offert Jésus-Christ. Le seul moyen par lequel l'homme pourra retrouver la confiance à Dieu. Et la conséquence de cette confiance, c'est ce que David va dire au psaume 37. Il est bon pour nous de toujours avoir nos yeux rivés sur la parole de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. David nous montre par là que Dieu agit lorsqu'on remet notre vie entre ses mains. Aujourd'hui, les hommes se permettent de croire qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Et le résultat, c'est que nous voyons autour d'aujourd'hui que l'homme n'est rien. Il dira à David, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Ne te confie pas en toi-même. Ne te confie pas aux hommes. Ne te confie pas aux circonstances. Mais remets ta vie à celui qui t'a créé. À celui qui connaît ta vie et qui t'aime, parce que Dieu veut le bonheur des hommes. Et au psaume 27, il dira ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Tout peut s'agiter autour de nous. Tout peut s'ébranler autour de nous. Mais la confiance en Dieu nous maintient, c'est un socle sur lequel nous devons nous appuyer. Parce que sinon nous croulons comme tout le monde. Il est bon de s'appuyer sur le Seigneur. Par la confiance en Dieu, on ne voit plus la vie comme de la même manière. Puisque par cette confiance, nous avons l'assurance que Dieu nous donnera la force d'affronter les difficultés de la vie. Ah, je me réjouis. Je me réjouis parce que je ne suis pas seul. Quelle que soit ma petitesse, ma faiblesse, je m'appuie sur le Seigneur et quel que soit ce qui peut m'arriver, je sais que je suis dans de bonnes mains. Le Seigneur me tenant entre ses mains. Il me tient dans ses mains parce que j'ai placé ma confiance en lui. Vous savez, c'est chose que beaucoup ont compris et ils ont accepté de laisser Dieu agir au lieu de se cramponner à leur propre plan. Je termine avec ceci. Chacun pour sa part peut se réjouir. Et c'est ce que Jean-Michel a fait un jour. Lui, comme tout homme, à un moment donné de notre vie, nous avons essayé de conduire nos vies par nous-mêmes. Nous nous sommes à un moment donné cramponnés à nos plans, tout en ne réalisant pas que ce sont les desseins de Dieu qui doivent s'accomplir et non pas nos plans. Jean-Michel l'a compris un jour. Et je bénis le Seigneur de ce que, voilà, le Seigneur l'a éclairé. Comme chacun, plusieurs d'entre nous peuvent le témoigner, l'attester. Il nous a éclairé dans notre folie. Nous étions égarés. Nous croyions mener une vie heureuse et épanouie jusqu'au jour où le Seigneur nous a arrêtés pour nous faire comprendre que nous étions sur un chemin tortueux. C'est pour cela, aujourd'hui, il a décidé, après avoir placé sa confiance en Dieu, après avoir reconnu que Jésus est celui qui est mort à la croix pour le pardon de ses péchés, il a décidé de marcher dans ses plans. Paul rappelle dans Romains au chapitre 6, versets 1 à 14, ce qu'est le baptême. Il montre que l'expérience est symbolique, car il représente l'identification du croyant à Jésus-Christ dans sa mort. Dans sa mort, dans une mort à notre ancienne vie. Avant que l'on rencontre Jésus, nous menions une vie. Jusqu'au jour où il nous fasse comprendre que ce n'était pas la bonne. Donc en acceptant de passer par les eaux du baptême, nous acceptons, et c'est ce que Jean-Michel va faire tout à l'heure, déjà dans son cœur, il l'a manifesté. Mais là, il veut le manifester publiquement, devant les hommes, mais aussi devant Dieu, en disant, voilà ce que j'étais autrefois, mais gloire soit rendue au Seigneur, voilà ce que je suis aujourd'hui. En lui, je suis une nouvelle créature. Mort à l'ancienne vie, mais aussi. Mort, mais aussi à sa résurrection, la résurrection de la vie spirituelle qui permet de marcher dans une nouvelle vie victorieuse en Jésus. C'est un commandement que Jésus a donné. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Montrant qu'une fois la personne à la foi de son salut, elle démontre extérieurement ce qui s'est passé à l'intérieur. Il a fallu que quelque chose se passe à l'intérieur avant que cela se voie à l'extérieur. Une expression publique de sa décision de servir le Seigneur et de vivre d'après ses principes. La vie chrétienne se mène non pas par rapport à ce que nous la concevons, mais par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Ce sont les principes de Dieu qui doivent régir nos vies. Sinon, nous courons vers la catastrophe. Mais quand je vis d'après les principes de Dieu, certes, il y aurait des choses que je ne comprendrai pas, mais le Seigneur sera toujours là pour me conduire dans de verts pâturages. Parce qu'il éclaire mon chemin. Il est ma lumière. Il est mon soutien.